Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Panoramique, une émission qui va parler de musique de film, de pépites méconnues et de madeleines cultes toute l'année sur Radio Campus Paris. Et puisqu'on m'a demandé de réaliser pour ce premier épisode ce qu'on appelle un pilote, eh bien j'ai fait la maline et je suis partie sur ce mot au pied de la lettre puisqu'on va commencer par le thème des road movies. Donc je vous propose de prendre la route ensemble pour explorer une bande originale. Je vous propose de prendre la route ensemble pour explorer une sélection de bandes originales de films à moteur, à hélice, à voile ou à panard. On va parler bien sûr des grands classiques américains comme Easy Rider ou Thelma & Louise, mais également du documentaire musical Sugar Man, qui est un petit peu un road movies inversé, on en parlera tout à l'heure. On va aborder les thèmes de l'exil, de l'enquête, de l'émancipation, de la loyauté. Et puis bien sûr, on écoutera plein de musiques différentes et puis on finira par une sélection de BO sur vinyle présentée par Monsieur Thomas Changeur, le génial gérant du disquaire parisien Les Ballades Sonores. Allez, top départ, c'est parti avec le groove inimitable de Steppenwolf. Je vous souhaite un bon voyage parmi tous ces voyages. Vous écoutez Radio Campus Paris, nous sommes de retour dans l'émission Panoramique et nous venons d'écouter l'un des titres composant la BO de l'emblématique road movie Easy Rider, sorti en 1969. Ce titre qu'on vient d'écouter, c'est The Pusher, ou plutôt l'autre morceau connu de Steppenwolf, et il fut choisi par Peter Fonda aux côtés de ce qui sera davantage une compilation de morceaux qu'une bande originale à proprement parler, aux côtés bien sûr d'autres titres comme Born to be Wild des mêmes Canadiens, ou bien I Wasn't Born to Follow du groupe américain The Birds. C'est un morceau qui est sorti en 68, à cheval sur la présence et le départ du guitariste-chanteur David Crosby, qui est parti lancer la même année, bien sûr, Crosby, Stills & Nash. Mais revenons à Steppenwolf et aux hymnes à la liberté qui épousent le propos très sex and drugs and rock and roll du film Easy Rider en bon franglais. C'est un film qui a été écrit pour son époque, sur son époque, et qui est né dans cette euphorie d'un futur fantasmé, parcouru par un petit vent de rébellion douce amère qui aujourd'hui encore nous évoque instantanément la fin des 60s dans le nord des États-Unis, qui était le berceau de la culture hippie. Son réalisateur, Dennis Hopper, comme d'ailleurs lui-même l'un des trois personnages principaux de ce film, en recherche exaltée de ce petit souffle de vie et bien sûr d'asphalte à engloutir. Et Dennis Hopper, eh bien, ce fut un chef de locomotive un peu colérique, exigeant et un petit peu chaotique aussi, aussi bien dans la préparation du film que durant son tournage ou la phase de post-production. Pour ceux que le gossip intéresse, vous trouverez sur le net pléthore d'anecdotes intenses qui sont un petit peu borderline sur ce tournage d'Easy Rider et qui donneraient, je pense, une chair de poule assez tenace aux membres de l'inspection du travail aujourd'hui. Mais en tout cas, avec Easy Rider, on retrouve vraiment cette idée de la fougue à la limite de la rage, de cette route qui est associée à la cavale dans ce qu'elle a de plus débridé et sulfureux. Et puis tout ça, ça ne pouvait être illustré que par une bande originale qui serait elle aussi sauvage et évocatrice. Alors, excite l'idée de commander un album sur mesure au bien sage Crosby, Stills & Nash qui avait été missionné à l'origine, parce que Dennis Hopper en fait trouve finalement que même si leur patte musicale est plutôt pertinente étant donné l'époque qu'ils sont censés illustrer, et bien finalement ils ne correspondent pas tant que ça à l'aura subversive et libre que son chef-d'œuvre Easy Rider voulait avoir. Ils ne correspondent pas tant que ça à l'aura subversive et libertaire de Easy Rider et ils seront donc rayés de la liste et remplacés par une collecte minutieuse de tubes beaucoup plus rock et beaucoup plus électrique qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est une collecte minutieuse qui fut aussi une collecte heureuse puisqu'elle s'est classée numéro 6 des ventes en 69, année du succès vrombissant d'Easy Rider, couronné au Festival de Cannes par le prix du meilleur film pour Dennis Hopper et ses Choppers. Hip 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 hurra, on écoute tout de suite I Wasn't Born to Follow des bien nommés groupes américains The Birds. Vous êtes de retour dans l'émission Panoramique sur Radio Campus Paris et on parle aujourd'hui des road movies et de leur bande originale. Voilà qui. Vous êtes de retour dans l'émission Panoramique sur Radio Campus Paris et nous parlons aujourd'hui des road movies et de leur bande originale. Dans cette longue lignée de morceaux cultes et de films cultes, on retrouve évidemment une esthétique variée, aussi bien à l'écran que sur les platines. On peut citer comme exemple, après Easy Rider, la destinée culte de Thelma & Louise, qui défie les lois de la pesanteur au cours d'une virée mouvementée en Ford Thunderbird vert sapin, dans la célèbre fable tragico-automobile signée Ridley Scott. est sorti en 90, Thelma et Louise, c'est un film qui pose une paire de lunettes assez féministes sur les yeux du spectateur de l'époque, puisque on était plus habitué à mirer les aventures de bandits très virils aux gros muscles, plutôt que les virages à 110 d'un duo de femmes qui préféraient voilà, le petit frisson de la liberté malgré les obstacles, plutôt que de vivre dans un quotidien assez étriqué qui avait un fort potentiel rabougrissant. Et pour accompagner ces kilomètres vers l'émancipation et la liberté, il y a bien d'une part une chevauchée orchestrale de Hans Zimmer qu'on écoute en fond sonore pendant que je parle de tout ça, et bien sûr... Donc Hans Zimmer, comme on peut l'entendre sur cette piste instrumentale qui accompagne la toute dernière séquence du film et son fameux fondu blanc presque mystique sur la voiture qui est suspendue au-dessus du vide. Voilà, je pense que tous les gens qui ont vu Thelma et Louise ont les poils des avant-bras qui se dressent à la simple évocation de cette scène de fin. Et puis d'autre part, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à la fonction de la musique dans Easy Rider, qu'on pourrait dire plus illustrative, ici Thelma et Louise, eh bien, c'est vraiment un film qui est traversé sans cesse par des morceaux typiquement USA et qui sont indissociables aussi de l'intrigue, mais qui sont écoutés en direct par les personnages sur des postes de radio, dans la voiture, dans des stations-service, des motels, des saloons. Donc vraiment, la musique est un vrai personnage, elle est partout et tout le temps. Et puis, les paroles de tous ces songwriters, ils accompagnent aussi un cheminement qui est emprunté par ces deux personnages principaux. Donc en fait, tout l'imaginaire collectif des grands espaces américains, de ces routes béantes, d'une liberté un petit peu archétypale, qui est très conditionné par la société de consommation, puisqu'on achète des choses, en achetant on devient libre. C'est vraiment, tout ça c'est vraiment mis à profit par Ridley Scott. Il expliquera d'ailleurs comment il a voulu réaliser comme l'Européen non initié qu'il était. Et on sent qu'il y a une espèce de jubilation décomplexée, presque un peu juvénile, hein, à mettre au premier plan ces détails très puissants et symboliques d'une Amérique un peu rêvée par nous et par les personnages. Donc à la fois dans le film et aussi dans les oreilles, on peut reconnaître des morceaux des Temptations, de Charlie Sexton ou de B.B. King. Mais pour moi, le titre qui sort vraiment du lot, à part cette piste bien sûr d'un steamer génial qu'on est en train d'écouter de loin, eh bien ce titre c'est « The Ballad of Lucy Jordan », interprété par Brian Faithfull. Et en fait, c'est un titre qui est doublement symbolique puisque, d'une part, la chanson raconte l'histoire d'une ménagère de banlieue qui s'aperçoit que sa vie est en train de se dérouler sans elle et qui rêve de goûter à la liberté dans une voiture de sport, d'avoir plein d'amants, de sentir le vent dans ses cheveux. Voilà, pour résumer un petit peu cette liste au Père Noël qu'on a tous eu en tête à un moment. Et en fait, cet hymne, qui peut paraître très simple, mais qui est très universel, c'est un véritable appel à l'émancipation, et qui est chanté en plus par une Marianne Faithfull complètement rincée, qui a passé 10 ans de sa vie à soigner une toxicomanie assez sévère, qui a complètement perdu sa voix de starlet 60s, et qui revient sur le devant de la scène avec ses grands vestons noirs en disant « Voilà, eh ben non les gars, je suis toujours là, voici mon album Broken English, et puis démerdez-vous avec ça, quoi ». Et sur cet album Broken English, il y a le morceau que je viens d'évoquer. On a la chance de pouvoir l'écouter. Voilà, sur l'album Broken English, il y a ce morceau que je viens d'évoquer, The Ballad of Lucy Jordan. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Quel bonheur d'écouter ce morceau et quel bonheur de réécouter ce morceau et peut-être aussi quel bonheur de le faire découvrir à ceux qui auraient pu passer à côté. Et en parlant de découverte et de trajectoire loupée, nous allons délaisser un petit instant les grands classiques de la fin de siècle pour parler d'un film un peu à part, qui est un road movie inversé ou un road movie paradoxal, comme j'ai choisi de le classer aujourd'hui, parce qu'en fait le personnage principal, contrairement au réalisateur, n'a jamais bougé de chez lui. Ce film, c'est Sugarman. Le titre original est d'ailleurs plus littéral puisqu'il s'agit du film. D'ailleurs, le titre d'origine est encore plus littéral puisqu'il s'appelle Searching for Sugarman. C'est un documentaire blues hyper inventif, aussi hyper fascinant, réalisé par Malik Benjelloul en 2012 autour de la figure du musicien de Détroit, Sixto Rodriguez. Alors, il faut savoir que s'il existait un ministère de la trajectoire loupée, je pense que Sixto Rodriguez ferait un bon coordinateur ou en tout cas un bon président d'honneur, puisqu'en fait, à l'époque où il sort ses premiers morceaux dans les années 70, il y a plusieurs confrères sur le créneau du blues rock. Et forcément, dans la bataille pour l'autoroute du succès, ça a créé quelques bouchons un petit peu embêtants. Et Rodriguez, c'est vraiment le vilain petit canard en comparaison avec les monstres sacrés que vont devenir Bob Dylan ou Lou Reed, puisqu'ils se fréquentaient tous un petit peu à l'époque. Et lui, il vient d'un milieu populaire. Il descend d'une famille d'immigrés mexicains. C'est quelqu'un qui va quitter le lycée à 16 ans et qui va se mettre pendant quelques années à enchaîner plein de petits concerts dans tous les rades pourris de Détroit en faisant des reprises des Beatles, des Stones, etc. Et en fait, il joue dos à son public. C'est pas quelqu'un de très mondain, Sixto Rodriguez. C'est quelqu'un qui a assez peu d'intérêt pour les interactions sociales qui précèdent ou qui suivent en général les concerts. En fait, son obsession, c'est surtout de jouer un maximum, de produire, de se produire et de pouvoir gagner sa croûte pour acheter du matos et nourrir sa famille. Donc voilà, malgré sa ténacité, il a quand même un timbre. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer au début très tenace et puis qui aura un univers un peu original qui sera mixé avec pas mal d'éléments hors blues. Et en fait, son originalité va l'amener à collaborer avec des grands producteurs, à la fois dans le Michigan chez lui, mais aussi en Angleterre. C'est comme ça qu'il va finir par sortir deux albums entre la fin des années 60 et le début des années 70. Deux albums qui ne vont rencontrer absolument aucun succès dans aucun des deux pays qu'il a visité. Et puis à partir de là, ce sera un petit peu la fin radicale de sa vie publique et en même temps, ce sera aussi le début de sa légende. Parce qu'en fait, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Au moment où sort l'album Cold Facts en 70, quelqu'un, on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui, quelqu'un a la bonne idée en fait, de l'acheter en cassette aux States et de le ramener en Afrique du Sud chez lui. Et là-bas, on est en pleine application de l'apartheid. Les jeunes générations qui se jettent à corps perdu dans le début de la lutte et puis des mouvements contestataires, c'est vraiment un long fleuve qui n'est pas du tout tranquille comme on peut se l'imaginer. Et en fait, dans ce contexte politique ultra tendu en Afrique du Sud, c'est là que le personnage de Sixto Rodriguez, par le biais de cette fameuse cassette, va rencontrer son public sans qu'il n'en ait aucune idée. En fait, très rapidement, il y a des dizaines et puis des centaines de copies pirates de Cold Facts qui circulent sous le manteau pour pouvoir éviter la censure. Donc évidemment, comme tout ce qui est secret a tendance à se propager avec beaucoup plus d'excitation, l'intérêt est grandissant. Et puis le discours hyper libertaire, hyper hippie de Sixto Rodriguez qui parle de sexe, qui parle de drogue, qui parle d'aller chercher soi-même son bonheur, etc. C'est un discours qui va recevoir une attention et une écoute assez intense, à tel point c'est que l'album va devenir disque d'or en Afrique du Sud, quoi. Donc il faut se représenter le bonhomme qui a complètement mis la musique derrière lui à Détroit, à l'autre bout de la planète. Il est redevenu maçon pour pouvoir payer son loyer. Il a vraiment voulu se faire oublier, il a tout fait pour disparaître. Et pendant ce temps, un pays entier à l'autre bout de la planète l'a érigé au rang d'icône, de symbole, de star absolue, mais sans qu'il soit au courant, quoi. Donc les mecs deviennent fous, il n'y a aucun moyen de retrouver Rodriguez, aucun moyen de savoir s'il est toujours en vie, impossible de le contacter, impossible de savoir surtout qui est ce type ultra mystérieux qui est devenu un véritable symbole. Et impossible jusqu'au début des 90s, impossible jusqu'en 91, où la fille aînée de Rodriguez découvre par hasard sur Internet qu'il y a un forum, même des dizaines de forums consacrés à son père, et qui sont animés par des disquaires, des militants qui recherchent des infos sur lui à tout prix, et qui s'échangent des indices en vain pour essayer de le retrouver. Et donc elle hallucine un peu, puis elle contacte l'un d'entre eux, et c'est là que la machine va s'emballer à nouveau. De fil en aiguille, une tournée à guichets fermés s'organise devant des milliers de personnes en 98. Des producteurs finissent par entendre parler de l'histoire, évidemment. Donc ils se mettent à tourner autour de Rodriguez pour l'encourager à produire à nouveau des morceaux. Et lui, à ce moment-là, il a déjà plus de 60 ans. Il est proche de la retraite. Et surtout, il avait vraiment fait une croix sur sa carrière, quoi. Donc il va remonter sur scène d'un coup dans les plus grands festivals américains, les plus grands festivals européens, même jusqu'en France, parce qu'il jouera au Transmusical de Rennes. Il va être samplé aussi en masse par des rappeurs au début des années 2000. Enfin voilà, c'est la grosse effervescence autour de Sixto Rodriguez. On a un petit peu cet effet conte de fées. Et surtout, on a un storytelling qui est tout prêt et qui n'attend que d'être cueilli. Et c'est exactement ce que va faire le réalisateur suédois Malik Bendjelloul en s'emparant du sujet un beau jour pour réaliser ce qui devait être à la base un court documentaire pour la télé et qui finalement sera en fait une véritable enquête. Donc ça va le conduire à retrouver la trace de ceux qui cherchaient à l'époque la trace de Rodriguez. C'est la partie un peu inception du pitch. Et en fait, il va se consacrer complètement et totalement à ce projet. Il va quitter son boulot. Il va parcourir des milliers de kilomètres à travers le monde pour interviewer toutes les personnes qui ont pu, à un moment ou à un autre, soit chercher Rodriguez, soit croiser sa route. Voilà, il va rencontrer toutes ces personnes-là. Et il va dédier beaucoup de temps, beaucoup d'espace dans sa vie à ses recherches, avec l'obsession créative de quelqu'un qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas toutes les réponses à ses questions. Donc on a de la chance parce qu'il a quand même fini par s'arrêter à un moment pour rassembler ses rushs. Il a fait le montage lui-même sur un logiciel, voilà, il a vraiment tout fait tout seul. Et il a fini par livrer ce film incroyable qui est évidemment indissociable de son sujet, indissociable fatalement de sa bande originale qui est constituée, vous vous en doutez, des titres emblématiques de Sixto Rodriguez. Et le film Sugarman obtient dès sa sortie toute une série de prix venus récompenser le travail de Malik Bentzeloul et puis aussi de Sixto Rodriguez qui avait fait l'effort de revenir sur le devant de la scène à ce moment-là. Donc quand le film sort en 2012, il obtient le prix du public et le prix de la meilleure musique au Festival du film documentaire d'Amsterdam. L'année suivante, il remporte aussi l'Oscar du meilleur film documentaire et le BAFTA du meilleur film documentaire. Donc voilà, on pourrait croire que c'est un happy end, mais je pense que cette chronique serait incomplète si je ne parlais pas de deux petits épilogues un petit peu plus dark en guise de conclusion. Donc premièrement, le fait que le réalisateur se soit suicidé en 2014 dans son appartement en Suède sans laisser aucune explication. Donc avec le monde du cinéma qui a été un petit peu secoué par cette nouvelle, vous vous en doutez. Et puis deuxièmement, le fait que Sixto Rodriguez, qui a soufflé cette année ses 80 bougies quand même, il n'est pas forcément été bien préparé à ce gros plot twist qui d'un seul coup l'a poussé à remonter sur scène dans ses années de vieux monsieur. Voilà, lui qui s'était habitué à l'anonymat depuis plus de 30 ans, à une vie très simple, au travail manuel, etc. Lui qui chantait quand même à la base d'eau à son public quand il a commencé à faire des concerts, il s'est soudainement retrouvé à 60, 70, 80 balais à devoir remplir des zéniths devant un public très massif qui avait nourri aussi des attentes probablement très très massives et qui ont été déçus d'ailleurs à plusieurs reprises parce qu'on trouve plein d'infos, plein de chroniques sur le net de gens qui disaient que les concerts étaient atroces, que Rodriguez était complètement bourré, était pas du tout en possession de ses moyens, qu'il était à moitié aveugle et qu'il peinait à se déplacer sur scène. Il y a eu plein de théories qui circulaient aussi, disant qu'il était mort en fait en s'immolant sur scène lors de son dernier concert en 70, et que donc ses producteurs auraient engagé un sosie et qu'ils auraient orchestré toute l'histoire du documentaire pour pouvoir se remplir les poches avec une tournée sold out en gros. Donc voilà, c'est une espèce de fascination qui a aussi son revers de médaille, je dirais, et qui nous pose plusieurs questions de fond, notamment voilà, la question du succès des vivants et du succès des morts. Qu'est-ce qui fait qu'on devient culte de son vivant ? Qui peut se vanter de l'avoir fait ? Et qu'est-ce qui fait qu'on devient culte quand on disparaît de cette planète ? Et aussi la pression d'une industrie qui a tendance à capitaliser sur une forme de mystère, parfois un peu extrême, sans forcément prendre en compte la vulnérabilité du produit d'appel, qui, en l'occurrence, est quand même un être humain. Mais en tout cas, à la fin, il nous reste deux choses pour se consoler. Il y a à la fois ce récit puissant porté par un film vraiment magnifique, hein, Sugarman, je vous recommande de le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis quand même une manière insolite et très efficace d'exhumer une musique qui méritait d'être exhumée avant la disparition de son auteur. Voilà, cela étant dit, on écoute l'un de mes titres favoris de cet album Cold Fact, le morceau Crucify Your Mind de Sixto Rodriguez. Prêtez attention si vous le pouvez aux arrangements de cuivre sur ce morceau qui sont assez symptomatiques de la proximité entre Rodriguez et les équipes de la Motown à l'époque, puisque Détroit est un village. Et voilà, ces cuivres, c'est vraiment le petit assaisonnement magique qui, pour moi, transforme cette chanson de blues en un chef-d'œuvre intemporel. J'espère que ça vous plaira. Si vous ne connaissez pas déjà, on se retrouve juste après cette chanson « Crucify Your Mind » de Sixto Rodriguez. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, on se retrouve dans l'émission Panoramique et vous êtes toujours installés sur le délicat matelas des bandes originales de Road Movies. À l'instant, nous écoutions le morceau Crucify Your Mind de Sixto Rodriguez et personnellement, j'étais en train de m'imaginer en train de boire une limonade artisanale sous un beau ciel d'automne et c'est le signe que l'émission touche à sa fin et qu'il est bientôt temps de se diriger vers la sortie. Je sens que ça va être le cas à chaque épisode, j'ai l'impression qu'on est ensemble depuis 5 minutes et j'aurais voulu parler d'à peu près 58 autres bandes originales. Mais le temps presse et je dois vous laisser en compagnie de mon dernier invité, qui est Monsieur Thomas Changeur. Un spécialiste de la mécanique et évidemment je ne pouvais pas ne pas lui demander sa sélection pour ce thème d'aujourd'hui que sont les road movies. Je vais lui laisser le mot de la fin et puis on se retrouve juste après sa sélection. « Voilà, merci Thomas pour ces précieux conseils. On a envie de passer son permis quand on écoute une telle sélection et quand on voit de telles pochettes. Alors merci à vous d'avoir suivi cette première émission de Panoramique. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. On se retrouve dans 14 dodo pour la suite de nos aventures radiophoniques. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de musique, allez vous promener dans plein de super films. Je vais vous laisser avec un petit mix de trois morceaux qui auraient été difficiles de ne pas citer avec le thème d'aujourd'hui. On écoute premièrement Eddie Vedder avec le morceau Long Nights, extrait de la bande originale du film Into the Wild, un morceau qui est idéal pour grelotter tout seul à la belle étoile. On écoute aussi Rick James et ce morceau Super Freak que j'associerai pour toujours à ce fou rire cathartique de la fin du film Little Miss Sunshine, un morceau idéal pour faire des striptease devant sa famille. Et enfin, La Mort Bleue de Antoine Duhamel, extrait du film Pierrot le Fou, un morceau idéal pour parler de la mort de Godard sans parler de la mort de Godard. Voilà, bonne écoute et à bientôt.